des questions qui préoccupent aujourd'hui l'enseignement supérieur français sur ses charges, sur ses ressources, sur sa démarche responsable et sur les recompositions de ses campus dans une logique peut-être plus économique au sens philosophique du terme que dans le passé. Je vous présente donc nos intervenants. Donc Gilles Demailly, qui est le maire d'Amiens jusqu'à aujourd'hui, mais lui, il n'a pas de période de réserve comme la ministre qui n'a pas pu venir, parce que lui ne se représente pas. Et bon, c'est un ancien président d'université, faut quand même le souligner, hein, et il travaille au sein de l'Association des villes universitaires de France. Donc il aura un regard, on va dire, mixte sur ces questions de gestion des campus, d'insertion dans la ville. Cécile Chicoy, qui est la DGS de l'Université Toulousain Capitole. Je disais en plaisantant, c'est la seule propriétaire de ce débat, parce que l'Université de Toulousain, avec Clermont, Blaise Pascal, pas Blaise Pascal, l'Université d'Auvergne et Poitiers ont bénéficié de la dévolution du patrimoine et désormais sont propriétaires de ce patrimoine, de leur immobilier. Olivier Laboule, président de l'Université de Nantes, qui est... je ne sais pas si c'est la plus grosse ou une des plus grosses universités pluridisciplinaires en France. Avant les fusions, mais on va dire que c'est pas encore tout à fait fait, enfin à part quelques-unes, mais qui était historiquement une université avec toutes les composantes. Il n'y avait pas Nantes 1, Nantes 2, Nantes 3, mais donc des locaux, des campus assez diversifiés. J'ai eu l'occasion de revisiter Nantes et de revoir un peu les projets, donc on y reviendra. José Liotet, qui est directeur général adjoint de Pertuis Construction, qui est une filiale qui est moins connue que Bouygues Immobilier, mais enfin qui est connue dans l'Est. Bouygues Construction, oh là là, oui, c'est vrai, je dis toujours avec Dominique Gégaud qu'il faut que je fasse attention au nom de Bouygues. Voilà, Bouygues Construction. Et Gilles Baillat, président de l'Université Reims Champagne-Ardenne, l'URCA, qu'on appelle maintenant l'URCA, ça commence à peu à passer, et qui est engagé dans un projet qui n'est pas achevé, qu'un projet, j'allais dire, vous l'appelez refondation de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors on va discuter assez concrètement sur les approches que l'on peut avoir pour rendre ces campus plus attractifs, mais dans les meilleures conditions économiques, parce que c'est ça aussi le défi de l'enseignement supérieur en période de tension budgétaire. Je rappelle que nous avons publié dans AEF les mètres carrés par étudiant dans chaque université. Alors des données des fois plus ou moins fiables en fonction de la prise en compte ou non des ex-IUFM dans les surfaces. Mais il y a vraiment des différences considérables de mètres carrés, de surface, de mètres carrés par étudiant entre régions, entre universités et bien sûr entre disciplines. Et Cécile Chicoy fait partie, avec Toulousain, des universités qui ont le moins de mètres carrés. Ça a même diminué sur 2012. Donc on a d'énormes par étudiant, mètres carrés par étudiant. Et je parle pas des mètres carrés recherche, hein, c'est des mètres carrés par étudiant compilés par le ministère. Hein. Moi, je m'appuie derrière l'expertise du ministère. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une erreur sur ces chiffres, avec des effets intéressants qui pourront nourrir la discussion. Des sites universitaires qui ont eu des chutes considérables d'effectifs, donc des locaux qui se vident, des locaux peu utilisés, et puis au contraire des sites universitaires, ou des universités ou des disciplines qui ont eu des augmentations colossales d'effectifs, et là les locaux ne remplissent plus leur fonction, dans un contexte par ailleurs où les modes d'apprentissage sont en train de changer à une vitesse qu'on ne soupçonnait pas encore il y a quelques années, avec l'arrivée du numérique et l'arrivée aussi de nouvelles générations et de comportements différents. Alors voilà un peu la toile de fond du débat qui va nous amener sur l'usage des locaux mixtes avec les collectivités et réciproquement. Je parle des équipements, je parle aussi des bibliothèques, je parle des campus. On est tous marqués, pour ceux qui y ont été, par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où le Learning Center est un lieu de visite de la population lausannoise le week-end. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas dans les sites universitaires français. Mais enfin, on peut imaginer des développements et avoir une vision assez prospective dans l'attention tout compte fait qui est celle d'aujourd'hui et qui peut peut-être être l'occasion de faire bouger les lignes sur l'occupation des locaux, leur gestion plus rationnelle, leur gestion bien sûr énergétique. Je crois que des intervenants auront des choses à dire. Alors Cécile Chicoy, je voulais commencer avec vous parce que, bon, je disais, vous êtes la première propriétaire de ce débat. Toulousain Capitole a eu ses locaux en pleine propriété. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose? Parce que beaucoup d'universités disaient, bah, tout compte fait, on préfère rester gestionnaire de nos locaux, mais propriétaire, ça n'a pas énormément d'intérêt pour nous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans le cadre d'une gestion plus responsable, tout compte fait, et donc sûrement plus durable, si on estime que responsabilité et durabilité vont de pair?
Merci. Bien, alors quand même, avant de dire ce que ça a changé pour nous, car ça a changé beaucoup de choses pour nous, bon, il faut rappeler qu'on est une université de centre-ville, avec à peu près aujourd'hui 100 000 mètres carrés. Bon, il y a une partie délocalisée à Rodez, mais la majeure partie des locaux sont à Toulouse, à 10 minutes de la place du Capitole. Bon, avec effectivement une université avec des effectifs qui augmentent et qui augmentent assez rapidement, et c'est certes parce que nous sommes très bons, mais également parce que nous sommes dans des disciplines attractives et dans un bassin d'emploi extrêmement dynamique, et avec une dynamique de population également très forte. Donc aujourd'hui, on est effectivement, enfin les statistiques qu'a sorti l'AES, on a perdu le nombre de mètres carrés par étudiant, on est passé de 2,3 mètres carrés par étudiant à 1,8. Je suppose, parce que j'ai pas fait le calcul, ces données viennent de nos schémas directeurs respectifs, SPSI et autres documents officiels. Bon, c'est dû à l'augmentation, effectivement, du nombre d'étudiants. On est en taux d'occupation de nos locaux d'enseignement autour de 130-140%. Puisqu'on commence à 8 heures, on ferme à 21 heures et il y a des cours le samedi. Donc, bon, toutes les universités ne sont pas dans le même cas. Donc, le cas de Toulouse 1 n'est pas forcément... je ne peux pas parler de transférabilité. Alors, qu'est-ce que ça a changé, le fait d'être propriétaire? Le fait d'être propriétaire nous a donné une plus grande souplesse. Ça, c'est un point, je l'expliciterai. Ce qui a changé quand même, c'est la dotation financière du ministère. Il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt.
Vous avez eu un bonus.
La dévolution s'est accompagnée, ça n'a rien de confidentiel, pour les trois universités, d'une dotation de dévolution qui a été inscrite dans une convention à 25 ans et sur laquelle l'État joue tout à fait le jeu. Avec, bon, vous en doutez, un contrôle, mais qui ne me choque évidemment pas, puisqu'on nous donne de l'argent, il faut que nous rendions compte. Mais nous avons une dotation, et bon, nous, pour un patrimoine qui est d'une valeur à peu près de... Bon, avant les constructions de 80-85 millions d'euros de mémoire, nous avons une dotation par an qui est destinée donc aux gros entretiens réparations de 5 millions d'euros. De mémoire également, Clermont-Ferrand à 6 millions d'euros par an et Poitiers 10 millions d'euros, Poitiers ayant 340 000 mètres carrés, donc trois fois plus que nous, je crois. Bien. Donc, c'est le fait d'avoir une dotation régulière et qui nous a pas seulement permis, mais obligé à programmer. Dans la situation antérieure où nous étions déjà maîtres d'ouvrage de nos propres travaux, donc de ce point de vue-là, ça n'avait pas changé. Mais bon, on faisait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayait de dégager. Il y avait un consensus à Toulousain depuis fort longtemps qu'il fallait dégager des moyens pour l'entretien normal. Donc les locaux, sauf à une exception près, en moyenne, étaient tout à fait correctement entretenus. Parce que chaque année, l'université dégageait un montant financier par un prélèvement sur les ressources des composantes, parfaitement accepté, parfaitement, j'allais dire, consensuel, et dégager des moyens pour avoir un entretien normal. Mais évidemment, dès qu'il y avait des travaux un peu importants, ben, on était soumis, comme tout le monde, hein, à tel programme de mise en sécurité, tel plan de relance, les CPER successifs, bien entendu, des crédits du FEDER. Enfin, donc, on allait chercher tout ça. Et du coup, ça rendait toute programmation un peu hasardeuse. Quand vous... Et comme tout le monde, je pense, il est arrivé qu'un plan de relance soit lancé un samedi et il fallait remonter au ministère des projets tout prêts pour le lundi d'après. Et on engageait
des travaux c'est possible.
Un peu rapides. Oui, je pense que c'est possible. J'étais pas là, mais j'étais à la préfecture, donc j'ai vécu de l'autre côté. J'ai pu repasser. Voilà. Donc, avoir une dotation et des objectifs écrits. Alors écrit, bon, je passe sur les nombreux documents parce qu'on nous demande de faire une programmation à 25 ans, excusez du peu, donc on l'a faite. Des programmations à 5 ans, c'est plus classique, mais ça nous oblige à avoir une vraie programmation et donc une vraie connaissance de notre patrimoine et une vraie connaissance des enjeux et la difficulté technique. Moi, je suis DGS, a été effectivement d'avoir à la fois cette connaissance fine du patrimoine et d'avoir les moyens humains et les outils techniques pour permettre une programmation réelle. Une programmation réelle, c'est dire dans 3 ans, on fait ci, on fait ça. Ça s'insère dans un plan, effectivement, à 5 ans. Bon, à 25 ans, je vous avoue qu'en fin de période, on est sur des ratios. Hein. On n'est pas vraiment sur une vision très... très précise. On ne sait pas si on va refaire la toiture à tel endroit ou à tel endroit en 2025. Mais et donc ça a vraiment effectivement.
Donc de la visibilité. Hein, ça vous donne de la visibilité.
Et de la souplesse. Alors de la souplesse, pourquoi ? On s'est retrouvé confronté à un problème inattendu. Un bâtiment qui abritait, qui abrite toujours l'IEP de Toulouse, s'est avéré en beaucoup plus mauvais état lors d'une visite de sécurité que ce qu'on attendait. Donc menace de fermeture. Etc. Et on a dû collectivement réagir extrêmement vite. Bon, donc aujourd'hui, on est dans un projet qui prévoit qu'on vend l'actuel bâtiment de l'IEP, ce qu'on n'aurait pas pu faire facilement en tout cas, pour reconstruire ailleurs, je simplifie un peu, ou restaurer ailleurs. Et on a pu monter un plan qui, du coup, a convaincu la mairie qu'on était dans des délais raisonnables et donc pas d'interdiction d'exploiter, parce que ça en était quand même... À ce point-là, bon, les travaux, effectivement, compensatoires à faire, mais on a pu réagir assez rapidement et en maîtrisant malgré tout une bonne partie du financement, ce qu'on n'aurait absolument pas pu faire si on n'avait pas été en dévolution. Je pense que si on n'avait pas été en dévolution, je ne sais pas très bien où seraient les étudiants actuels de l'IEP à Toulouse, mais en tout cas, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc voilà, donc ça donne à la fois une obligation, une contrainte, mais une contrainte, j'allais dire, en dynamique intéressante qui est de programmer, d'anticiper et d'être dans cette logique-là, et donc d'avoir les moyens humains et techniques, les outils également pour le faire, et ça donne quand même une souplesse en cas d'imprévu. Qui a des limites, bien entendu, mais qui permet en tout cas de travailler plus efficacement, je crois.
Merci. Alors, Gilles Baya ou Olivier Labou, on va voir qui veut prendre la parole, parce qu'on a 3 expériences de président d'université. Cette visibilité, cette souplesse, je sais que certains présidents estiment qu'en étant gestionnaire, ils peuvent relativement l'avoir. Comment vous gérez ça par rapport à vos projets et quelles sont vos stratégies? Parce qu'on a parlé de la connaissance de son patrimoine, il y a aussi la connaissance des usages du patrimoine. Je sais pas, Olivier Labou tout de suite veut parler. La connaissance des usages du patrimoine, parce que souvent on s'aperçoit que c'est un peu terra incognita hein, dans les universités, les usages des locaux. Vous serez complémentaires, vous verrez.
Oui.
Olivier Labou.
Merci de m'inviter d'abord. Le mot-clé qui m'a fait réagir, c'est usage. Hein, je ne l'avais pas entendu jusqu'à présent, mais je pense qu'il y a plusieurs chocs. Je pense qu'on parlera d'autres chocs tout à l'heure, mais le choc culturel des usages, il est majeur. On a un certain nombre de critères sur les mètres carrés par étudiant. Mais ça, c'est, je dirais, du technico-technique. On a l'illustration à Nantes, avec un profil particulier, je n'y reviendrai pas, mais 110 bâtiments, 500 000 m² de chaune, plusieurs villes, plusieurs départements, et c'est pour ça que je pense être ici, parce que c'est quand même caricatural. On a l'illustration d'un plan dans le cadre du plan campus, d'une réhabilitation où les acteurs, ceux qui vont y vivre tous les jours, ont revisité totalement les usages. Donc on parle plus de réhabilitation, mais de réhabitation. Qu'est-ce qu'on y fait? Les pratiques pédagogiques, certes. On peut avoir une politique de lien formation-recherche beaucoup plus affirmée qu'on l'avait lorsque les bâtiments étaient construits. Voilà ces 2 exemples. Et puis la vie quotidienne des personnels et des étudiants. Donc ces critères d'usage sont, à mon sens, beaucoup plus importants que les aspects techniques. Lorsque nous sommes arrivés il y a un peu plus de 2 ans, il y avait un schéma directeur, mais technico-technique, qui ne prenait pas en compte justement ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on peut faire. Et si les acteurs s'approprient après quelques mois de discussion ce qu'ils ont envie de faire, sur la même surface, on peut faire totalement différemment, en prenant peut-être des critères, mais surtout une respiration, une cohérence sur les axes politiques, l'axe lien formation-recherche, c'est un acte majeur. Eh bien, on l'illustre dans l'immobilier. Donc ça, on a cette capacité, nous-mêmes, de changer ses usages.
Merci. Alors, Gilles Baya, sur cette question.
Il y a toujours un micro. Ah,
c'est la règle de l'animateur.
Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier sur la nécessité impérieuse de dépasser l'aspect technique, même si mon entrée... peut-être que j'inciterai plus moi sur l'aspect politique et stratégie, mais je pense que c'est tout à fait complémentaire. Juste pour camper le décor, hein, moi, mon université, 23 000 étudiants, plusieurs villes dans la région et 7 sites universitaires dans la ville principale qui est Reims. Je rappellerai peut-être, c'est un rappel, mais en même temps, c'est une anecdote qui est très lourde de signification dans le contexte local. En 2005, peut-être que certains se rappellent parmi vous d'émissions qui sont passées sur les chaînes de télévision nationales, notamment Canal+, et qui pointaient du doigt l'incurie de l'État quant au patrimoine universitaire. Deux villes étaient montrées du doigt. Il y avait Reims, bien sûr, et je crois que l'autre, c'était Marseille. Et les images que l'on voyait à la télévision étaient les suivantes. Hein. Vous voyez des étudiants qui cheminaient dans des couloirs d'une faculté soutenue par des étais pour empêcher les plafonds de s'effondrer sur les étudiants. En effet, la faculté était en train de glisser sur une nappe de terrain instable. L'image est catastrophique. Si on parle d'attractivité, je ne peux pas m'empêcher de mettre, c'était en 2005, de mettre en rapport cette situation avec le fait que mon université, qui compte 27 000 étudiants en 2001, en compte 20 000 en 2011. Alors évidemment, je ne veux pas faire un rapport de causalité directe, simplement une mise en relation. Et si, quelque part, ces images avaient quelque chose à voir avec l'attractivité d'une université et son développement. Lorsqu'en 2010, nous apprenons que le plus grand campus de la ville, 50 hectares, en plus le campus qui rassemble tous les aspects, toutes les structures scientifiques lourdes autour de la faculté des sciences, de l'IUT, d'une école d'ingénieurs, que ce campus est hors sécurité à 90%, qu'il est condamné, les bâtiments seront tôt ou tard détruits. La question se pose dans le contexte très moi, c'est d'une autre manière. Nous avons déjà été échaudés. Comment faire en sorte que nous ne soyons plus confrontés à ces images d'une faculté étayée par les étés qui soutenaient à ce moment-là ces couloirs. Et en 2010, la décision est prise, puisque de toute façon nous allons détruire, la décision est prise de recentrer l'université, de la rassembler sur un seul site. Nous sommes alors dans une logique de rationalisation, dans une logique qui vise à, quelque part, profiter de l'obligation de déménager pour, évidemment, construire une université moins coûteuse pour l'avenir. Au moment de mon arrivée à la présidence, la question s'est quand même posée pour mon équipe du véritable enjeu qu'il y avait derrière ce transfert. S'agissait-il d'un déménagement source d'économie ou ne pouvions-nous pas faire du problème la matrice d'une solution à une question beaucoup plus globale, qui est celle du développement de l'université et de l'attractivité. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé de rebaptiser l'opération, non plus transfert des campus pour les rassembler, mais refondation de l'université. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire le fait que la question n'était plus essentiellement, c'est pour ça que je te rejoins tout à fait, celle d'un déménagement. Ce n'est plus d'abord une question bâtimentaire, c'est la question du projet de l'université qui est posée en premier lieu. La question du campus et des bâtiments devant être la traduction, bien sûr, de ce projet, mais une traduction et non pas la finalité de l'opération. Et c'est la raison pour laquelle, y compris dans le calendrier, nous avons présenté le 5 avril 2013 ce que nous avons appelé le projet stratégique de l'université, que voulions-nous être en 2020, en 2025, en 2030, et le 7 juin, donc deux mois plus tard, nous avons présenté et signé une convention politique cadre avec tous les décideurs de la région sur l'opération qu'on appelle depuis l'opération Grand Campus, hein, et qui vise donc à rassembler 20 000 étudiants sur un seul site. Mais ce sur quoi je voudrais insister, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est cette logique inversée. Qu'est-ce que nous voulons construire comme type d'université et quelle doit en être la traduction bâtimentaire ? Juste un exemple concret pour que ça vous parle. Dans notre projet stratégique, nous avons un projet Nous avons un volet recherche important et un volet formation, bon, qui lui aussi est important, bien évidemment. Il y en a d'autres. Dans le volet recherche, nous insistons sur le fait que l'université souhaite dépasser une structuration de la recherche par les unités, qu'elles soient propres ou UMR, nous avons 31 aujourd'hui, et rassembler la recherche, restructurer la recherche autour de grandes plateformes technologiques organisées dans le cadre de pôles beaucoup plus réduits. Traduction bâtimentaire, alors oui, il n'y aura plus les bâtiments recherche comme nous avons l'habitude de les connaître dans notre université. Nous n'avons plus les compartiments pour telle unité de recherche, nous n'avons plus les bâtiments pour telle unité. Nous avons des ensembles qui sont structurés autour d'un projet scientifique de pôle. Au niveau de la formation, la principale préoccupation de mon université, c'est le développement aujourd'hui de la recherche, de l'offre master et doctorale. Comme on sait que c'est le développement de cette offre de formation est étroitement lié à la question de la recherche, alors, traduction bâtimentaire, nous voulons rassembler la formation master et doctorale autour de ces plateformes. Évidemment, il y a la question du cycle licence, mais nous raisonnons d'une autre manière, et pour le cycle licence, nous généralisons l'usage de bâtiments complètement mutualisés, ce qui pose d'ailleurs de lourdes questions sur l'identité de ce qu'on appelle des composantes au sein de l'université. Hein ? La faculté de droit n'a plus ses locaux, la faculté de maths n'a plus ses locaux pour l'offre licence. Hein ? Vous voyez, alors ce sont deux exemples, mais l'idée est bien la suivante. Le nouveau campus, c'est d'une part une université, évidemment, qui sera totalement nouvelle dans le paysage, dans la tradition historique, mais c'est aussi un autre concept que nous souhaitons développer et dont l'aspect bâtimentaire doit être la traduction.
Merci. Alors, dans ces recompositions, les collectivités locales ont historiquement joué un grand rôle. Gilles de Mailly, vous avez, on l'a dit, connu les deux métiers, hein, président d'université et maire. De ma petite expérience personnelle, je sais qu'en parcourant les villes universitaires, on s'aperçoit quand même d'une frénésie de construction, souvent à l'initiative des collectivités locales et pas forcément à bon escient. On pourrait prendre des photos des locaux vides, désespérément vides, alors que les étudiants ressentent souvent le manque de place, etc. Je ne vais pas être cruel sur toutes les anecdotes qu'on pourrait citer. Le ministère est parfaitement informé de cette situation. Tout le monde le sait. Les élus n'ont-ils pas une part de responsabilité quand même dans la situation qu'il y a eu sur le patrimoine en obligeant souvent ou en espérant construire parce que c'était visible alors que le problème était plutôt une rénovation des surfaces. Il y a des exceptions, je vois Mme Chicoy qui fait la moue, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où il y a des problèmes de surface, mais même si d'ailleurs on peut se poser des problèmes à l'échelle des sites, on y reviendra, hein, sur l'échelle des sites. Monsieur Demey.
Oui, j'allais dire, moi, de toute façon, je suis responsable, comme j'occupais les deux fonctions. Non, mais je crois qu'il faut, évidemment, rapidement, hein, puis c'est difficile de parler de façon générale. On l'a évoqué ici, vous avez différentes universités que je connais un peu, surtout celle voisine de Reims. J'y ai enseigné encore il n'y a pas longtemps, régulièrement, toutes les semaines. Et je connais bien le problème de la fac des sciences qu'on a évoqué. Mais je crois qu'il faut quand même refaire rapidement l'histoire, je ne vais pas être très long. Moi, je suis arrivé à Amiens en 84. Il y avait à l'époque 12 000 étudiants. Et 10 ans après, il y en avait 22 000. Bon, donc il ne faut pas reprocher aux collectivités d'avoir construit des mètres carrés, heureusement. Donc il y a eu dans les années 90-95, il y avait besoin de construire. Donc je crois qu'il fallait le faire. Moi, je me souviens de l'université 2000, il y avait quand même un enthousiasme partagé des universités et des élus. À l'époque, j'étais simplement universitaire, j'ai pas de responsabilité. Mais j'étais déjà proche des élus et des candidats. Enfin bon, il y avait un changement politique en 89 important sur Amiens. Mais c'était important pour les universitaires que les politiques, à l'époque, aient compris que l'université, c'était un enjeu important pour la société, et y compris donc pour les élus, y compris les élus des villes. Moi, je me réjouis qu'à l'époque, le maire de Beauvais, le maire de Laon, alors je dis ça volontairement, hein, parce qu'en fait, à cette époque-là, on a construit des locaux universitaires dans 6 villes de Picardie. Peut-être que là-dessus, faire des sites avec 200, 300, 400 étudiants, des départements d'unité par-ci, par-là, effectivement, ça pose un problème là-dessus. Mais il y avait quand même cette volonté de démocratisation supérieure, d'accueillir correctement les étudiants, de développer la recherche à l'université qui était jeune, et ça, c'était un atout essentiel. Je crois que c'est quand même bien que les élus de la nation comprennent l'importance de, sur le développement économique, l'importance de l'université. Donc surtout, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, parce que là, dans les périodes où les élus, justement, vont avoir à rendre à l'État 10 milliards d'euros d'ici 2-3 ans, voilà, attention au discours que tient l'universitaire. Donc, alors l'universitaire était demandeur. Je veux dire, les collectivités n'ont fait que répondre aussi, souvent, je ne parle pas forcément dans le nombre de sites, hein, mais sur un site donné... Quand le nombre d'étudiants a doublé dans le pôle, je sais pas, sciences humaines, il fallait créer sur un mètre carré. Et donc, à Amiens, ben, le maire d'Amiens à l'époque a fait comme ça et on s'en est réjoui. Et j'ai été, moi, de plus en plus engagé là-dessus. On a, j'ai aussi été directeur des FEM, comme mon collègue de Reims, hein, je crois qu'il est, c'est aussi une... Là aussi, mais je crois que c'est ça qui est important. Je crois que, enfin, le collègue de Reims a bien posé le problème. Ce qui est important, c'est le projet. Quel projet a l'université? Et ensuite, éventuellement, quels locaux et comment elle s'installe. Je m'explique, je prends aussi l'exemple d'Amiens. Je parle de l'UFM, pourquoi? Parce que si on conçoit l'UFM comme étant véritablement partie de l'ensemble de l'établissement université, il faut construire un projet qui soit partagé entre, pour la formation des enseignants par l'ensemble de l'université. C'est en partant de ce projet-là qu'Amiens, à l'heure actuelle, est en train de construire un projet citadelle où l'UFM est au cœur, avec l'ensemble des composants des disciplines d'enseignement. Parce que c'est le projet de former les enseignants pour la Picardie, c'est un véritable enjeu. Alors, quand même, oui, c'est vrai que les universités ne sont pas tous dans la même situation, parce que si elles sont pluridisciplinaires, elles peuvent jouer entre leurs propres composantes, éventuellement, pour pouvoir gérer correctement leur bâtiment. Lorsqu'on a encore des séparations entre universités et scientifiques, qui ont des problèmes d'effectifs qui baissent rapidement, parfois 40-50% de moins, et d'autres composantes, droit, gestion ou santé, tout comme en premier cycle, qui voient leur vie augmenter, si on est séparé, ça pose un problème. Donc je ne dis pas que je suis pour des mastodontes de 100 000 étudiants. J'ai bien compris qu'à Toulouse, si on regroupe tout le monde, il y a 100 000 étudiants. Mais c'est quand même un problème. Et du coup, les élus, là, ils vont être clairs. Tenez, là, vous, les collègues universitaires, là, vous gérez vos problèmes, là. Ne nous demandez pas de mettre de l'argent sur la table pour régler le problème de telle composante de telle université et à côté de savoir que dans tel endroit, vous avez des milliers de mètres carrés libres. Ça, c'est une... Cette question-là, les universitaires ne pourront pas y couper. Ensuite, effectivement, les locaux. Alors là aussi, la qualité des locaux, elle est très variable. Hein. Les jeunes universités, quand ils ont eu la chance que les collectivités ont investi, ils ont des locaux en général de bonne qualité, économes en énergie, qui se gèrent bien... des universités qui n'ont pas eu cette chance, c'est-à-dire qu'il y a eu des bâtiments construits par l'État en 70, puis ça s'est arrêté. C'est le cas de Reims, hein, je sais. On a effectivement des passoires thermiques, des choses qui s'écroulent. Je les ai vus les étés, hein, je me suis faufilé entre eux pour pouvoir y enseigner. Voilà des questions importantes. Moi, je crois fondamentalement que les universitaires devraient tous être propriétaires de leurs bâtiments. Ça rend responsable. Quand on assume l'entretien de ces bâtiments qu'on sait sur le coup d'une question de sécurité, eh bien, on gère différemment les choses. Alors, je ne vais pas renvoyer sur le problème de la gouvernance des universités. Vous savez, l'histoire, elle se fait. Il faut dire clairement que les politiques au niveau national, à un moment donné, ils ne voulaient surtout pas laisser les universités gérer. Il faut être clair. Ils étaient responsables. Mais quand même, oui, c'est ça la question de fond. Maintenant, on demande aux universités d'être capables de tout faire, d'avoir un projet et de gérer l'ensemble de la personne et de leur patrimoine. Je suis désolé, quand on a été mineur pendant si longtemps... demain matin, on vous dit, maintenant, vous êtes majeur, vous débrouillez, vous gérez vos personnels, y compris tous les problèmes d'évolution de la masse salariale avec des décisions qui sont prises toujours par le gouvernement. Hein. Quand, demain, ils vont finir par augmenter le point d'indice. Bah, ça va avoir un impact budgétaire. Les locaux, voilà, ils n'ont pas été entretenus. Tout ça, c'est... Il faut que l'université s'adapte. Mais elles n'ont pas le choix. Elles n'auront pas le choix. Mais je vais terminer là-dessus. Je pense que quand on est dans la nécessité fait loi, quand on est en difficulté financière, on devient plus intelligent. Moi, je travaille avec des architectes qui ont un projet. Je dis, vous avez 100 millions pour construire ma citadelle, là. Vous n'aurez pas un de plus. Je ne changerai pas l'enveloppe. Eh bien, l'architecte, au début, il en voulait 120, 130, 140. Mais il en a 100, il fait avec 100. Et il a fini par me dire, mais c'est un grand architecte, c'est Renzo Piano. Il m'a dit, j'ai toujours pensé que c'est quand on avait des difficultés qu'on devenait intelligent, qu'on trouvait des solutions qui étaient économiques. C'est ça, le raison. Donc, je suis optimiste dans ce sens-là. Mais il y a du chemin à faire par tout le monde.
Alors on va voir ce chemin, José Lyautey, vous qui êtes un peu pas le seul technicien, mais quand même l'expert sur ces questions. Il y a une chose qui m'a frappé dans le débat, c'est les changements rapides d'effectifs, hein, des composantes dont les effectifs baissent, d'autres qui augmentent, les changements dans le cadre des projets, le projet scientifique qui fait qu'on veut réorganiser différemment l'espace. Est-ce que les questions de modularité aujourd'hui, d'organisation de l'espace, c'est quelque chose qui est, maîtrisable? Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là, pas seulement évidemment dans l'enseignement supérieur, parce qu'il semble que ça soit un des défis les plateformes scientifiques, sur l'organisation des enseignements. On n'a pas évoqué les MOOCs, mais une grande université comme Lille 1, je crois, a 37 amphithéâtres qui sont quasiment aujourd'hui de moins en moins utilisés parce que ça a été conçu dans les années, je crois, dans les années 60, à l'époque où il y avait les amphis en sciences. Aujourd'hui, ils n'en ont plus l'usage. Donc, comment rendre modulaires des locaux qui existent aujourd'hui? Je ne parle même pas de construction parce qu'il y a l'aspect construction, mais on sent bien qu'il y a des établissements où il n'y aura plus de construction aujourd'hui. Il y aura des réhabilitations, rénovations. Quelles sont les solutions? Comment vous, comme expert de Bouygues Construction, je me suis pas trompé, Dominique Gégaud ne m'en voudra pas, vous pouvez nous donner des esquisses de solutions, de choses qui ont été expérimentées?
Bien, d'abord bonjour à toutes et à tous. Alors c'est une sacrée furieuse question ça. Hein.
Et vous êtes là pour ça. Hein.
Oui, mais la précédente personne qui a pris la parole, monsieur, je vous en remercie. Vous avez dit c'est quand on est dans la contrainte qu'on va trouver les solutions. Donc je vais essayer de vous présenter quelques solutions et quelques idées sur le sujet de la modularité. Alors au cœur du débat, avant de parler de la modularité, je crois monsieur et je vous rejoins complètement. La question c'est celle de la qualité d'usage qu'on offre quand on fait de l'immobilier, quand on fait de la construction. Et qu'est-ce qu'on entend par qualité d'usage? Je vais être assez schématique, c'est de dire qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, quand on construisait un bâtiment, une administration, une université, on appliquait un certain nombre de ratios de programmation, le nombre d'élèves, le nombre de labos, et puis tout ça arrivait à un programme en mètres carrés qu'un architecte dessinait, et puis ça correspondait à un besoin tel qu'il avait été identifié il y a 10 ou 20 ans, et puis on refaisait une nouvelle université sur les modèles anciens, et ceci constamment. Donc ça, c'était le modèle ancien qui n'est plus adapté, qui n'a jamais été vraiment adapté, mais qui l'est de moins en moins, parce que les modes de fonctionnement, les méthodes d'enseignement, vous l'avez dit, les techniques d'enseignement ont beaucoup changé et que demain, on ne fera plus beaucoup moins de grands amphis, beaucoup plus de téléformation, de téléenseignement. Alors ça pose beaucoup de questions, évidemment, tout ça. Ça veut dire que quand on va travailler à concevoir ou à dimensionner un bâtiment, une université, prenons le cas d'une université neuve, pour commencer, toute la question va être de...
On finira sur les réhabilitations.
Oui, mais bien sûr. Donc, sur les universités neuves, la question, ça va être non pas de se poser les effectifs de l'université, mais qu'est-ce qu'on y enseigne, comment on va l'enseigner, et comment surtout, et je reviendrai là-dessus, on l'enseignera dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, on n'est pas futurologue, mais il faut essayer d'anticiper toutes ces choses-là, parce que quand le bâtiment est construit, il est construit pour au moins, on va dire, 30 ans, 40 ans, parfois un peu plus, et donc, il va falloir qu'il offre toutes les capacités d'évolution d'usage, et on sait qu'on est dans des révolutions technologiques qui font que ça va très très vite. Alors, toute la question pour répondre à ça, c'est de viser à une très grande modularité. Ça veut dire que, d'une part, il faut éviter, à mon sens, le séquençage qu'on connaît dans la conception des opérations jusqu'à présent, c'est-à-dire l'intervention d'un programmiste qui va recueillir les besoins auprès de vous, mesdames, messieurs, puis qui ensuite va le traduire en programme, et qui va poser la question à un architecte, et puis qui va dessiner, et puis on va consulter des entreprises. Puis dedans, des gens mettront des équipements qui, à terme, serviront à l'enseignement. Toute la question, c'est d'arriver, pour anticiper ces évolutions d'usage et de répondre à la question de l'usage, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table à un instant donné. Voilà. Et ça, c'est une chose extrêmement difficile, parce que quand on séquence les problématiques, on a l'impression que c'est plus simple, tout simplement parce qu'on les prend les unes après les autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque solution additionnée à la précédente ne donne pas une solution globale satisfaisante. Donc il faut avoir le courage de prendre des procédures, des méthodes de travail qui font qu'il faut se poser beaucoup de questions dès le début. Il faut que vous, universitaires, vous posiez beaucoup de questions, vous acceptiez cette maïeutique d'être avec des gens qui vont vous questionner sur ce que sera votre université, ce que sera votre projet d'université, pour mettre la technique de construction au service de tout ça. Donc la question de la modularité, elle dépend pas simplement des techniques de construction, je vais y venir ensuite. Ensuite, elle dépend aussi de la façon dont vous allez émettre vos besoins et dont ces besoins vont être identifiés par toute une équipe de conception. Ça, c'est le premier point. Alors après, sur les techniques, bien évidemment, Bon, j'allais dire, les techniques de construction, c'est à la fois ce qui évolue le plus et le moins. C'est-à-dire qu'on construit toujours la même chose, on fait toujours du gros œuvre, on fait toujours du béton, et puis du béton, de l'acier, du bois, et puis on vient habiller tout ça. Ce qu'il faut viser, et ce sur quoi nous travaillons tous, constructeurs, sur la question de la modularité, c'est d'offrir des espaces dans lesquels il n'y ait pas de points durs. Alors, vous imaginez, quand vous faites un bâtiment, ben, vous avez des points durs que sont les poteaux, les murs pour porter les planchers, que sont les escaliers, que sont ces choses-là. Et toute le travail technique est d'éviter, alors je ne veux pas entrer dans la technicité sur les plus grandes portées, sur les bétons plus performants, etc., mais c'est d'éviter d'avoir des points durs et d'offrir des espaces qui soient des enveloppes à l'intérieur desquelles on peut très facilement moduler et permettre des évolutions de l'usage en fonction de l'évolution des techniques d'enseignement. Voilà pour la partie neuve. Alors sur la partie réhabilitation, là, monsieur, je serai un petit peu plus bref, parce que la question de la réhabilitation, ben, on ne peut pas la traiter de façon générale. Vous le savez, vous qui êtes maintenant propriétaire de ou en passe de devenir propriétaire de vos patrimoines, la question de la réhabilitation, vous avez des patrimoines qui vont depuis des bâtiments qui sont classés jusqu'à des bâtiments qui ont été, vous le disiez, monsieur, construits dans les années 60-70. Donc là, la question, c'est au coup par coup, mais en appliquant toujours cette méthode de bien qualifier quel sera l'usage, quels seront les besoins, et d'essayer de s'adapter à cela. Voilà.
Alors, qui veut réagir sur ce débat ?
Oui, je veux bien, parce qu'il ne faut pas seulement poser la question de l'usage par les universitaires. Tout à l'heure, le collègue a bien posé la question aussi. Je crois que les élus vont de plus en plus exiger, au nom des contribuables, qu'ils soient vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des collectivités, alors, je caricature, parce que je me réjouis que les locaux de l'université sont ouverts de 8h du matin à 21h le soir, mais moi, j'ai connu des locaux, parce que les universitaires venaient de Paris enseigner à Miage, très clair, mais c'est le cas dans d'autres, où les cours se passaient entre 9h et 17h, 5 jours par semaine. Et 30 semaines par an. Et quand je dis 30, je suis gentil, parce que maintenant, c'est parfois deux semestres au 12. Hein.
Tout à fait. Et 5 jours par semaine, vous êtes optimiste, parfois.
Je suis aussi optimiste, voilà, parce que pour des tas de raisons.
De langue de bois.
Non, mais on perd de langue de bois, parce qu'on est là pour se dire les choses. Donc, ça, c'est évidemment plus acceptable. Donc, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Quand je parlais de construction, on a encore la chance parfois de construire des projets, c'est clair. Quand on construit maintenant des projets universitaires, on ne construit pas pour les universitaires. On construit pour l'ensemble des usages qui peuvent être faits par des locaux. Je reprends l'exemple, mais je peux citer le cas de Nancy ou le cas d'autres projets. Tous les projets qui se construisent à l'heure actuelle sont des projets pour l'ensemble des citoyens, à la limite de l'ensemble de l'agglomération. C'est-à-dire on y fait des lieux de concert, on y fait des lieux de formation de tous les personnels, pas seulement des étudiants, des formations d'adultes. On y fait des lieux de vie, de culture, d'échange, parce que justement, le monde universitaire n'est plus un monde qu'on met à l'écart dans des campus à 10 km de la ville. Mais qu'on met de plus en plus, soit la ville d'ailleurs a regagné ses campus, soit les campus sont revenus en ville, comme c'est parfois le cas. Et c'est ça, je crois, l'avenir. Pour ça, je parlais de projet universitaire. C'est même pas un projet de l'université. C'est un projet de l'ensemble des acteurs sur un site donné. Voilà, je pense que c'est ça la vraie question.
Alors voilà, là, c'est parti. Je disais 3 jours par semaine un peu de manière provocateur, mais simplement pour dire que dans la perception qu'ont les usagers étudiants, par exemple, je ne vais pas citer le cas de grandes universités parisiennes, il y a une impression de tension énorme, alors que quand on regarde de plus près en discutant en privé avec des acteurs, on voit bien qu'il y a un problème d'allocation des plages horaires dans l'université. Mais le client final, qui est l'étudiant, lui, il se dit il y a un vrai problème de locaux. Et c'est repris d'ailleurs par tous les médias.
Enfin, là, je voudrais rebondir, mais en étant tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilles de Magny, mais peut-être en reprécisant, parce qu'on... À vous entendre, on a le sentiment qu'effectivement, on est dans une logique d'optimisation des surfaces, optimisation des horaires, des amplitudes horaires, etc. Mais en le disant comme ça, on reste toujours, à mon avis, dans le même paradigme. La question qui se pose aujourd'hui, y compris du point de vue de l'université, c'est aussi celle, d'un point de vue très global, de son insertion, comme vous venez de le dire, dans un projet qui dépasse le projet universitaire. Je prends des exemples concrets, j'en prends deux. Dans notre futur campus, il se trouve que, par le hasard de la topographie locale, on est obligé de détruire des espaces sportifs, des terrains de foot. Bon. Ce qui pose une question qui n'est plus seulement une question de l'université, on a besoin d'espaces sportifs, mais c'est une question qui est aussi une question pour l'agglomération. Du coup, la solution que nous sommes en train d'élaborer, c'est une solution qui consiste à créer un vaste espace pan sportif, avec trois grands acteurs que sont la région, l'université et l'agglomération pour, dès le départ, non pas concevoir des espaces sportifs de l'université, mais des espaces sportifs qui sont, dès le départ, conçus comme étant des espaces mutualisés. Même chose, deuxième exemple, pour l'agglomération rémoise est à l'origine d'une technopole, et nous avons aussi des besoins d'hébergement de nos start-up hein, qui nous demandent des locaux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la technopole, pour l'instant, est une technopole qui n'est pas encore traduite dans un bâtiment? Est-ce qu'on conçoit l'agglomération et l'université un espace mixte et mixte, finalisé par un usage autour des questions de transfert et d'innovation, mais mutualisé d'entrée de jeu, ce qui veut dire que au moment même de la conception, c'est pas seulement un problème d'optimisation de l'existant, c'est aussi la question de concevoir de nouveaux espaces. On va aussi construire un espace de type séminaire, à la fois pour nos chercheurs, mais aussi pour les entreprises les locales. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment finalement de se poser la question dans quelle mesure on est en train d'inventer autre chose du point de vue de la relation entre le projet de l'université qui est absolument indispensable parce qu'on a nos missions, parce que on existe et qu'il faut absolument qu'on existe. Mais en même temps, ce projet de l'université, aujourd'hui, il impacte de plus en plus un projet qui est beaucoup plus global et on doit être en situation de responsabilité par rapport à ça.
Olivier Labou.
Je suis en désaccord et je suis en accord. Je suis en désaccord parce qu'il ne faut pas qu'on ressorte de cette salle avec un débat caricatural où les amphis sont vides, où les murs s'effondrent et où on est irresponsable parce qu'on n'a pas de contraintes. Et ça, on peut pas continuer à parler de l'université comme ça. Il y a plein de choses formidables et que ce soit dans la presse, c'est toujours nos difficultés budgétaires. Et ça suffit. On fait des choses formidables, tout le monde s'engage. On a des projets de recherche d'une lisibilité remarquable, il faut le dire aussi. Hein, je ne voudrais pas qu'on ressorte sans gna gna gna, ça ne va pas du tout. Là où je suis d'accord, c'est que l'université aujourd'hui est un acteur des politiques publiques. Dans une métropole comme la mienne, un habitant sur 12 travaille ou étudie tous les jours à l'université. Donc c'est une collectivité. C'est de la taille, 51 000 personnes, c'est de la taille d'une ville conséquente. Donc, ce faisant, on ne parle pas que des logements, on parle aussi de la mutualisation, de la vie. On est en train de travailler sur le quartier de la création. Le quartier de la création, ça va être des établissements d'enseignement supérieur, dont l'université et dont sa puissance de recherche, avec des écoles, le design, l'architecture, les beaux-arts, etc., où on va mutualiser un bon nombre de nos surfaces sur les constructions qu'on va avoir en 2017. La moitié de nos surfaces seront mutualisées avec les autres établissements. La moitié de la surface, autre, sera ouverte au public. De manière à ce que ce soit un véritable quartier universitaire, un pôle du numérique interdisciplinaire. On fera la même chose sur le quartier hospitalo-universitaire. C'est plus un CHU, c'est un quartier hospitalo-universitaire où il y a l'enseignement. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant. La responsabilité, c'est pas parce qu'on n'est pas propriétaire qu'on n'est pas responsable. Je parlais d'un choc culturel tout à l'heure, on a un choc énergétique est considérable. À côté, les difficultés de masse salariale, ça va être de la rigolade. Le GVT, ça va être de la rigolade. On a pu calculer qu'entre 2010 et 2020, on allait passer en dépense énergétique qui, cette année, a doublé la dépense de maintenance, 11% et 10%. On allait passer de 3,4 millions pour un établissement comme l'Université de Nantes à 10,2. C'est une bombe. Donc là, il faut que collectivement, avec les collectivités, on prenne nos responsabilités sur les futurs CPER et autres, avec des programmations à 15 ans, parce que ça ne se fait pas en 5 ans, et que l'on puisse assumer la place de l'université sur son territoire.
On reviendra sur les coûts énergétiques, Chicoy, et après José Lyotet.
Oui, moi je voudrais apporter un témoignage également non misérabiliste, mais personne ne l'a été autour de cette table, je crois, sur le fait qu'on peut travailler avec les collectivités locales et de manière tout à fait... dynamique et pas seulement en « j'ai un projet, donnez-moi de l'argent ». Aujourd'hui, bon, l'actuel maire de Toulouse a entamé une réflexion très importante et avec des réalisations, pas que une réflexion, avec un architecte catalan qui s'appelle Joan Busquets et qui s'est traduit par une revitalisation très importante du centre-ville. Et nous travaillons, nous sommes en centre-ville.
Hein. Oui, Toulousain Capitole est une université de centre-ville.
Nous travaillons avec cet architecte, et y compris dans le cadre, On a une étude en cours sur la réutilisation de parking, enfin, etc. On travaille avec cet architecte, avec la ville, et dans le cadre d'un projet effectivement commun. Et je crois que ça devient... Alors, moi, je suis entrée à l'université par l'opération Campus, puisque j'ai travaillé, je faisais un mot tout à l'heure, parce que j'ai été dans un conseil régional, dans une administration centrale et dans une préfecture, j'ai fait plein de contrats de plan. Et donc, j'allais dire, les responsabilités sont partagées de tout le monde. On ne peut pas dire que les collectivités... ont mis de l'argent par les fenêtres. On ne peut pas dire non plus que tout a été parfait, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais là, on est vraiment aujourd'hui, je crois, grâce à l'opération Campus, en termes de dynamique de site sur Toulouse, en tout cas. Je ne parle pas des modalités techniques, PPP, pas PPP, mais la dynamique que ça a impliqué dans le travail avec les collectivités locales permet maintenant d'arriver, effectivement, et je pense pouvoir le dire, y compris pour mes collègues du T2 et de Paul Sabatier, à une notion de travail et d'espace commun. Et ça, c'est... a priori une source, d'optimisation à tout point de vue pour les finances publiques, mais également pour les étudiants, enfin pour les utilisateurs que sont nos étudiants.
Merci. José Lyotet. Oui,
deux points. D'abord sur l'échelle de l'université et l'échelle de la ville. Oui, tout à fait, vous avez raison. On parle de ville, ou au moins de quartiers de la ville qui se reconstruisent ou qui se recomposent avec les universités. Et vous partagez d'ailleurs avec les élus des collectivités des soucis très communs sur essayer de comprendre ce qui va se passer demain et inventer la ville de demain, l'université de demain. Vous avez toutefois un petit avantage par rapport aux collectivités, c'est que vous avez une ressource absolument extraordinaire que vous pouvez mobiliser et valoriser au sein de vos universités. C'est des ressources internes qui peuvent participer à la réflexion sur ce que sera la ville ou l'université de demain. Et je crois qu'il est, pour les constructeurs comme nous, par exemple, il est extrêmement intéressant de travailler en collaboration très forte avec les universités sur leurs projets de campus, en mobilisant leurs chercheurs, que ce soit sur la recherche de matériaux, évidemment, d'énergétique, ça paraît assez aussi évident, mais également des gens qui travaillent dans les sciences humaines, parce que comprendre quelle sera la société de demain, les évolutions sociales, et donc anticiper là aussi la modularité de demain, eh bien ça fait partie, et ça entre dans le champ de compétences, de gens qui sont dans vos universités. Et je crois que ça, c'est une ressource qu'il faut savoir mobiliser et qui nous intéresse beaucoup. Alors, deuxième sujet sur lequel je voulais réagir, l'efficacité énergétique. Alors oui, c'est un vrai grand problème, que ce soit dans le neuf ou dans la réhabilitation. Je voudrais juste mettre le point sur quelques sujets là-dessus. D'abord, l'efficacité énergétique repose sur trois facteurs. La qualité de l'enveloppe, c'est-à-dire la qualité d'hermétisme, thermique des bâtiments. Sur un deuxième facteur qui est la qualité de la production, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelque chose qui est bien étanche thermiquement, il faut qu'on produise le plus intelligemment possible et en anticipant quelles seront les bonnes sources d'énergie demain, parce que celles qui sont attrayantes aujourd'hui ne le seront peut-être plus dans 10 ou 15 ans. Mais ça, c'est des questions, j'allais presque dire, assez faciles à résoudre parce que ce sont des questions techniques et des questions économiques. Et puis, il y a un troisième facteur qui, plus nous serons performants sur la qualité de l'enveloppe, plus nous serons performants sur la technique de production d'énergie et de chaleur, qui va devenir de plus en plus déterminante, c'est le facteur de l'utilisateur. C'est-à-dire que plus on aura des bâtiments performants, plus les mauvaises utilisations vont être un marqueur important de dérive en termes d'énergie. Et toute la question là-dessus aussi, c'est une question passionnante pour demain, c'est que pour maîtriser les dépenses d'énergie, alors dans les villes, dans les universités, bien sûr, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre pouvoir agir sur les utilisateurs, faire de la pédagogie auprès des utilisateurs, les responsabiliser. Et évidemment, plus on sera performant sur le reste, plus ça va devenir important et un enjeu extrêmement déterminant dans la question des dépenses énergétiques. Je voudrais aussi ajouter une chose sur on parle souvent de labels, de réglementation thermique et toutes ces choses. Je crois qu'il est essentiel qu'on n'aille pas chercher la justification par la copie ou par l'écrit auprès des opérateurs et des gens qui vous construisent vos universités. On peut prouver qu'on a le label RT, le label chantier haute performance énergétique. Sur le papier, c'est certainement vrai. Dans la réalité, il en va tout autrement. Donc il est extrêmement intéressant de pouvoir responsabiliser non seulement vos usagers et vos utilisateurs, mais également les gens qui construisent ou mettent en œuvre les solutions pour votre efficacité énergétique. Parce que c'est pas sur ce qu'ils vont vous prouver par le papier que vous allez faire des résultats, c'est parce qu'ils seront engagés sur la durée, sur des niveaux de consommation. Voilà, c'est quelques points que je voulais ajouter.
Alors merci, José Lyotet, vous faites référence aux utilisateurs. Moi, je le décrypte sur un autre angle dans les universités. Si on prend l'utilisateur composante,
Les composantes ont un rôle important dans l'offre de formation, dans la recherche, je parle pour les laboratoires, Gilles Bayal l'a évoqué. On a fait une enquête au niveau d'AEF, par exemple, à l'université Joseph Fourier. Ils ont fait tout un travail, ils s'étaient aperçus que les laboratoires développaient leur propre centre de calcul avec des factures énergétiques astronomiques. Donc ils ont fait tout un travail pour essayer de diminuer cette facture, mais c'est un travail pédagogique auprès des laboratoires, auprès des composantes. Alors, comment, en tant que président d'université, en tant que directeur général des services, comment on peut faire évoluer les choses pour avoir des comportements, j'allais dire, au niveau de l'établissement, parce que ça se joue, les consommations énergétiques, au niveau de l'établissement. En gros, est-ce que vous leur avez mis un petit compteur à Nantes, dans chaque composante, sur les ordinateurs qui restent en veille, et on sait que ça coûte très cher, etc. Je plaisante un peu, mais comment vous envisagez le management, tout compte fait, de ce changement vers une gestion plus responsable ?
Plusieurs éléments de réponse. J'ai bien compris que de toute façon, si la fenêtre ne fermait pas, ça servait à rien de laisser ou pas son ordinateur ouvert. Ça, tout est relatif. Après, ça participe aussi des RCE, c'est-à-dire la mise en compétence vis-à-vis d'un certain nombre de domaines, dont le domaine de l'immobilier qui est de plus en plus criant, je le disais tout à l'heure. Ça fait partie de la professionnalisation des services patrimoine, on va les appeler comme ceci. Le recrutement par exemple d'un logisticien qui permet d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble d'un établissement aussi grand que celui que je connais. Donc cette professionnalisation des services est capitale, donc une véritable organisation, et ça faut du temps. Il faut du temps parce qu'on part quand même, on nous avait promis qu'on était au niveau, on ne l'était pas du tout.
C'est un secteur dans lequel il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, dans les établissements.
Je sais qu'en l'espace de quelques mois, on a professionnalisé, on a recruté des professionnels dans le domaine, ça a tout changé. Ça a tout changé. Bon, après, sur les pratiques, il y a des logiques qui sont des logiques de composantes, des logiques de... ça dépend là aussi de la politique qui est choisie. C'est pas simplement la réhabilitation égale fermer les fenêtres ou doubler les fenêtres. C'est ce qu'on entend quelquefois au niveau de nos collectivités, après on explique et on voit bien un peu la nuance, c'est des logiques d'ensemble, des logiques de lien avec les collectivités sur un réseau de chaleur qui peut être commun, par exemple. Voilà une bonne complicité qui est travaillée en amont sur des objectifs. Et puis c'est une mutualisation, non plus sur des composantes, mais à l'échelle de pôles, par exemple, de manière à voir comment on peut gérer les usages. Je reviens sur les usages, mais c'est lié aussi, sur les chauffer, les amphis, pas les amphis. Comment on peut avoir une réflexion commune sur l'échelle d'un site, quand on a plusieurs sites. Ça n'est pas forcément la composante ou l'unité de recherche qui est l'élément d'appréciation le plus pertinent. Il faut prendre un petit peu plus de champ que ceci, à mon sens. Donc la démarche, elle ne sera pas sur une faculté, sur une UFR, un institut.
Et est-ce qu'elle est acceptable et acceptée,
alors,
d'après vous ?
Je disais tout à l'heure que sur le nouveau tertre, c'est un SHS, si vous voulez, sur le site, les acteurs, les premiers intéressés, ont participé à l'élaboration de ce qu'ils vont faire dans le local. Et dans cette démarche, il y a une démarche qualité, il y a une démarche développement durable. Donc pour ceux qui en 2017-2018 seront dans ce local, ils sont vaccinés, totalement vaccinés. Donc c'est pas forcément sur un local trop aéré, entre guillemets, que l'on va pouvoir agir, mais c'est aussi sur la durée, et c'est pour cette raison qu'on se projette à 15 ans, pour changer les usages en fonction d'une opportunité qui est la réhabilitation, par exemple. Donc on peut pas avoir un arrosage de tout le monde en pensant éteindre la lumière, ça on sait que ça marche pas, mais c'est des choses ciblées en fonction du contexte et des opportunités de réhabilitation, reconstruction, extension.
Non, Gilles Lemaillé.
Oui, d'abord qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je partage tout à fait l'image, je dirais contraire, d'une université en mouvement, et qui dans le fond répond assez efficacement quand même à des mouvements qui sont posés extérieurs. Quand même, tout à l'heure, on rappelait, quand on a doublé le nombre d'étudiants en quelques années et qu'après, on a des phénomènes inverses en fonction des composantes, l'adaptabilité de l'université, elle est là. Donc, voilà, je veux que ce soit clair. Et puis, mon idée était de dire, le problème qu'on évoquait de meilleure gestion, d'utilisation des locaux en termes d'usage partagé et tout, ce sont des choses qui se posent pas seulement à l'université. Je peux citer un exemple, juste parce que c'est dans le débat public aussi. Vous voyez bien le débat sur le rythme scolaire. Il y a des endroits, c'est absurde. Les enseignants disent, surtout, touchez pas nos classes, faites vos heures périscolaires dans d'autres bâtiments, dans d'autres locaux. On sait bien que c'est une caisse débattable publique. Il est évident que la réponse, ça ne peut pas être ça. Donc il s'agit bien de globalement de regarder de façon plus large simplement que l'université pour trouver des solutions adéquates. Oui, réseau de chaleur, mais, voilà, j'aurais pu citer, c'est exactement ce qui se passe. Quand une collectivité pense, je dirais, à créer un réseau de chaleur, il est inconcevable qu'elle ne fasse pas avec l'université pour voir comment s'améliorera sa facture énergétique. Et c'est un impact aussi quand même. Les écarts sont quand même de 30% minimum quand on fait ce genre de choses. Donc c'est ce travail, mais je vais dire, je vais plaider pour ma paroisse. Lorsque les collectivités, en particulier les villes ou les agglos, revendiquent de participer à la réflexion stratégique sur l'évolution de la diversité, c'est bien parce qu'elles sont conscientes de ça. Elles sont conscientes que les solutions à trouver pour demain un meilleur enseignement universitaire, de meilleures interactions entre les entreprises, parce qu'on est aussi là pour ça, et les universités, ça passe aussi par des solutions partagées, mais sur lequel on ne peut pas exclure tel ou tel partenaire. Je pense que fondamentalement, la collectivité de proximité qui est la ville ou la métropole, elle est forcément questionnée par tous les problèmes que vous avez à régler. Voilà. Alors que faut pas imaginer que c'est l'État. Non, mais je caricature aussi, là. Quand j'ai commencé comme universitaire il y a 40 ans, c'était en gros l'État, ils vous disent que vous devez avoir le diplôme, le même diplôme partout. Et Strasbourg, Amiens, je dis ça, j'enseigne en les deux. Non, je sais de quoi je parle. Bon, c'est absurde, on n'en est plus là. On est, en tout cas, c'est un nombre de choses qui sont partagées. Et puis après, vous avez tous les masters, tous les diplômes adaptés, y compris à des besoins qui peuvent être parfois locaux, mais qui n'ont pas vocation à former que les gens au niveau local, mais aussi des excellences locales, mais qui sont au niveau mondial aussi en termes de... C'est pareil en recherche. Donc je crois simplement que le discours que j'affirme au nom de la MGVF, sur les maires des grandes villes de France, mais aussi de la VUF, c'est bien que cela, il doit être réfléchi ensemble, et pas l'État fait les formations, l'État fait la recherche au niveau, et au niveau local, vous regardez avec la région les problèmes d'innovation. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je rappelais que c'est dès la réflexion stratégique de l'université, ça doit se faire avec les entreprises, ça doit se faire avec l'ensemble des collectivités, dont les collectivités de proximité, qui ont évidemment beaucoup de compétences générales et qui concernent donc les problèmes de déplacement, les problèmes de vie étudiante. Prenons l'exemple là, c'est toujours l'université. Est-ce qu'on va encore faire des logements pour les étudiants qui sont occupés un semestre par an? Non, il faut arrêter de gérer les logements étudiants comme ça. Enfin, je dis ça, j'ai eu beaucoup de discussions avec le CROUS, avec le CNUS, c'est un vrai problème. On ne peut plus gérer de la même façon lorsque vous aviez les étudiants... qui étaient vraiment des chambres de 9 mètres carrés.
Mais c'est un bon exemple, parce que officiellement, il faut toujours construire des logements étudiants. Alors quand on interroge les acteurs, on voit qu'il y a des taux d'occupation très particuliers.
C'est parce que je me considère que je suis un petit peu celui qui va faire un peu bouger les choses. J'ai envie de parler, je suis un peu libre, vous l'avez dit. Je ne suis pas candidat, j'ai plus de droit de réserve, donc je m'exprime avec l'expérience large que j'ai. Moi, j'ai eu la chance d'être ingénieur de formation, été directeur du FM, président de l'université, directeur d'un bureau de recherche, et ensuite élu local. Donc, j'ai un peu fait le tour, disons, des façons de voir des uns et des autres. Bien, le gros défaut, c'est de voir chacun de son côté. Quand on voit ensemble, on s'en sort.
Alors, justement, cette parenthèse qu'on a faite sur le logement étudiant, ça m'amène sur le problème étudiant, parce que l'étudiant, c'est l'usager principal, le destinataire de l'université, même si en France, c'est quelque chose de culturellement toujours plus compliqué que dans les pays développés, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais comment, comme président d'université, comme dirigeant d'établissement, vous voyez l'avenir en termes d'offres de formation? Parce qu'on sait que l'offre de formation, les périodes de stage impactent le logement étudiant, les années raccourcies impactent la conception même des enseignements. On a parlé des MOOCs, mais pas simplement. Comment on conçoit les masters? Comment on conçoit le cycle licence? Comment on intègre la formation continue? Est-ce qu'aujourd'hui, les universités françaises sont capables d'avoir une réflexion prospective sur cette question en lien avec les questions immobilières? Parce que c'est quand même un problème complexe. Vous êtes toutes et tous en train de réfléchir à vos offres de formation, les services de vos enseignants, comment ça va s'organiser. Gilles Baya a donné quelques exemples. Moi, j'aimerais bien, en conclusion de ce débat, avoir un peu votre... non pas vos recettes, hein, on est cohérent, mais votre réflexion sur cette question qui me paraît difficile, mais essentielle.
Je vais bien répondre. L'université, de mon point de vue, est assez paradoxale, c'est-à-dire elle est extrêmement conservatrice. Il est difficile de faire bouger quelque chose. En revanche, dès lors que c'est compris, ça va très vite. Et ça, c'est pas tellement connu, mais dès lors qu'il y a une adhésion, on renverse des montagnes. Ça, c'est vraiment très très fort. Sur l'adaptation, la formation en général, la réponse, elle est protéiforme. La réponse, elle ne va pas être dans les MOOCs. On sait comment s'aider, les MOOCs. Hein. C'est les difficultés sur la bulle des inscriptions des étudiants américains, donc il fallait trouver une solution. Les MOOCs, c'est une tête de gondole. Très bien. Ça peut être la solution. Ça peut être une solution. Il faut s'adapter aux différents profils des étudiants, en fonction de leur cursus, mais aussi en fonction de leur apprentissage, et proposer une offre de formation qui soit diversifiée en fonction du profil de chacun. Dans certains pays d'Europe du Nord, on a 50% d'étudiants salariés. Donc ça, c'est une adaptation qui sera différente de celle que l'on a aujourd'hui. On n'est pas encore à ce type de pourcentage. Donc c'est être capable de proposer une offre de formation pour les mêmes choses, diversifiée. Hein, je ne dis pas diversifiée sur différents thèmes, mais pour les mêmes choses, sous différents modes. Donc différents modes d'évaluation en fonction de chacun. Je pense que c'est notre adaptation à cette diversification qui peut être la clé. Il n'y a pas une seule recette.
Je vais tout à fait dans ce sens. Hein, c'est-à-dire que quand tu dis on n'en est pas encore à 50% d'étudiants salariés, dans une université comme la mienne, j'ai quand même 50% de mes étudiants qui ont ce qu'on appelait avant un job, sauf que c'est un job quand même qui leur prend au moins 20 heures par semaine, et que ça introduit d'innombrables contraintes qui nous font réfléchir d'ailleurs sur la nature de l'offre de formation, indépendamment d'ailleurs de la question de l'innovation pédagogique, parce qu'il y a ça aussi. Je me méfie quand même des discours, notamment le discours des MOOCs aujourd'hui, bon, qui est un peu invasif, on va dire. N'oublions pas quand même que ça fait 30 ans qu'on annonce la disparition des amphis, et que moi, à ma connaissance, dans mon université aujourd'hui, j'en ai pas assez. Hein, d'amphis. Donc, il faut quand même effectivement camper le décor d'une université qui va avoir affaire à des publics beaucoup plus diversifiés. Ce n'est plus l'étudiant de mai 68, d'une certaine manière. Ce n'est plus l'étudiant de 1980. Ce sont des types d'étudiants extrêmement différents qui n'ont pas les mêmes disponibilités, qui n'ont pas, par exemple, pour assister à des cours en présentiel, qui n'ont pas non plus les mêmes prérequis, parce que quelqu'un qui revient à l'université à 40 ans, ce n'est pas la même chose. Bon. Donc on a une diversification des publics, on a une diversification de l'offre pédagogique, c'est-à-dire... Moi je pense quand même que le cours en amphi a encore parfois des raisons d'être, même si c'est pas de la même manière que le tutorat, et sans doute à l'autre extrémité. Donc je pense que la question, ça va rejoindre la question de la modularité aussi, hein, des espaces. Donc je pense qu'il faut avant tout être en situation d'alerte par rapport au respect de la diversité, justement. Hein, le pire, ce serait quelque chose qui serait totalement modélisant. Peut-être que le mot clé, c'est le mot ouverture, finalement. Hein, ouverture avec diversification, ouverture sur de nouveaux publics, ouverture sur de nouveaux modèles pédagogiques, ouverture sur de nouveaux lieux de formation. L'université, aujourd'hui, n'est pas seulement dans les locaux de l'université. Avec l'intensification, avec la problématique de l'insertion professionnelle et l'intensification de l'offre de stage, par exemple, l'université est partout. Et avec l'internationalisation, l'offre de formation doit aussi se penser à destination d'étudiants qui ne sont pas là pendant 6 mois. Donc, vous voyez, il y a énormément... Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Le maître mot, c'est vraiment être disponible pour la diversité, à la fois des étudiants et à la fois des méthodes.
Cécile Chicoy, vous avez le micro.
Oui, en revenant, bon, je suis pas enseignant chercheur, donc je ne m'aventurerai pas sur l'innovation pédagogique, bien entendu. Mais en revenant sous l'angle immobilier, nous avons, en ce qui nous concerne, une réflexion qui n'est pas facile à mener. Alors, bon, nous, on n'a pas trop d'amphi et on n'en a pas non plus pas assez. On en a à peu près ce qu'il faut. Simplement, on manque de petites salles, parce que ce que je constate en tant que DGS, c'est que j'ai une demande des enseignants de plus en plus d'avoir des plus petits groupes, des plus petites salles, etc. Donc là, il y a une modification des pratiques pédagogiques que je constate personnellement et à laquelle on essaie de trouver une réponse, mais on a parfois un peu de mal. Alors par ailleurs, il y a une deuxième type de réflexion, alors sans parler forcément uniquement de MOOC, mais... il y a les MOOC, mais il y avait déjà quand même un certain nombre de choses dans le numérique, mais de changements de pratiques, mais sur lesquels nous avons constaté que ça n'était certainement pas une solution au problème de place. C'est pas parce qu'on développe de l'enseignement numérique qu'on aura moins d'étudiants. Et donc, en parallèle, on essaie d'optimiser actuellement des locaux existants, parce que la dévolution nous a donné un peu de sous, mais pas assez pour construire dans tout Toulouse, malheureusement. Sur la création de lieux où les étudiants, bon, alors on peut appeler ça un learning center, c'est pas celui de Lausanne, certes, mais de lieux où les étudiants peuvent travailler en groupe avec un minimum d'infrastructures, etc. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le numérique s'accompagnait, je dis pas que c'est lié, mais d'une demande forte des étudiants d'être présents sur le campus. Et donc de trouver des modes de travail collectifs. Et ça, c'est également, malgré tout, dans une université de droit. On avait l'habitude des amphithéâtres de 700. Enfin bref, c'est vraiment une évolution qu'on a pu constater et à laquelle, avec les difficultés en immobilier, on est quand même sur plusieurs années. Hein. On n'est pas sur un petit bateau, sur un zodiaque. On est quand même sur des gros paquebots et qui prennent un peu de temps à bouger. Mais on essaye de trouver les modalités d'adaptation dans un patrimoine qui est à restaurer et non pas à construire. Donc la modularité dans la restauration aussi, c'est un peu compliqué. Mais enfin, voilà. Donc c'était un peu le témoignage du constat et de ce que ça faisait bouger sur la dimension immobilière. Et du coup, la difficulté d'avoir un schéma directeur qui n'est pas que technique, et vous avez absolument à 100% raison, mais qui est bien un schéma directeur des usages qu'on va traduire ensuite en mètres carrés, etc. Mais la première partie, c'est bien les usages. Et c'est là que ça devient intéressant.
Bien, ben merci. Monsieur Lyotet, vous voulez dire un dernier mot, ou Gilles Demailly, parce que j'ai donné la parole aux académiques. Enfin, monsieur Demailly, je ne vous considère pas comme académique aujourd'hui.
Non, mais comme vous voulez, hein, je vous en prie.
Oui, moi je vais juste dire, j'étais ravi d'être avec vous, de découvrir que les universitaires se passionnent pour les questions de patrimoine et d'immobilier, et que les réflexions sont très avancées. Donc, messieurs, je suis prêt à continuer la discussion après ce débat.
Non, simplement, vous avez bien compris que, justement, je serais mal placé pour dire le contraire, mais c'est une conviction forte. C'est bien dans les échanges entre l'universitaire et les élus qui représentent, à un moment donné, les citoyens de cette ville. Je crois qu'il y a une confiance forte. Je redis ça. Je crois que les élus, les citoyens en général, sont vraiment confiants dans leur formation, dans leur université. Qu'ils reconnaissent qu'on leur a demandé de faire des choses extrêmement, parfois, de la direction contraire, en peu de temps, qu'ils se sont adaptés. Mais aussi parce que dans l'université, c'était pas simple quand même. Je redis l'idée. Quand on regarde avec une certaine distance, j'ai 40 ans maintenant de regard, quand on regarde comment l'université, en moyenne, là aussi c'est pas vrai, moi j'étais à Strasbourg, où ça fait très longtemps que ces réflexions ont eu lieu, et l'université avait évolué rapidement, voilà, je remonte assez loin. Mais quand on regarde la conception que l'université avait de son métier, et ce qu'on lui demande de faire maintenant, quand même, c'est-à-dire que, en clair, il sera maintenant présent dans son université beaucoup plus qu'il l'était avant, dans certaines disciplines en particulier, et les responsabilités de gestion, s'il veut continuer à être le pilote de son université, sinon on fait comme les CHU, hein, on a des administrateurs, moi je suis pas du tout partisan de ça. Et donc, non mais les présidents non plus, mais globalement, parce que la responsabilité des pilotes de l'université, ça doit rester effectivement aux universités eux-mêmes et aussi aux enseignants qui doivent réfléchir avec une distance par rapport au phénomène de ce qu'ils rencontrent, mais ils s'adaptent. Mais ils s'adapteront d'autant plus facilement qu'il y a le dialogue avec pas seulement l'État, mais l'ensemble des collectivités, des partenaires et l'ensemble des milieux. Donc je disais une fois en plaisantant, moi ce qui m'a marqué, c'est, vous donnez, je mesurais, le nom des universités, les citoyens ne le connaissent pas. Mais la responsabilité qu'a un président d'université dans l'avenir d'une collectivité dans une ville, elle est extrêmement importante. Quand on a effectivement 23 000 étudiants dans une ville de 150 000 habitants, ça a un impact sur la vie de tous les jours de l'ensemble des citoyens. Et surtout, ça a un impact sur la vie quotidienne directe, ça a un impact sur l'avenir de la ville. Aucun maire de grande ville n'ignore l'impact sur le développement de sa ville et son environnement de la place de l'université, du développement de ses laboratoires, de l'innovation, de la recherche, de la formation. Je crois que c'est d'abord ça. Donc c'est un mot très optimiste sur les coopérations entre les universitaires.
Merci.
Chez nous, on dit jouer à la nantaise.
Oui.
Merci. Alors je retiens de ce débat la question vraiment primordiale des usages sur la question du patrimoine avec toutes les implications. Et puis peut-être une deuxième idée, c'est que m'a soufflé Olivier Labou, c'est qu'un débat sur le GVT peut en cacher un autre, à savoir sur le patrimoine. C'est que le débat sur le GVT a occupé beaucoup d'espace dans la communauté universitaire et que peut-être on va découvrir un gouffre sur la question des coûts énergétiques, des questions de patrimoine à gérer. et de l'énergie que cela représente pour l'ensemble des équipes. Et quand je dis des équipes, j'inclus les composantes et tous ceux qui sont au contact du terrain. Donc c'est peut-être ça un peu qu'il faut retenir de ce débat, les usages et ce nouveau chantier qui est peut-être moins médiatique dans un premier temps, mais qui pourrait le devenir. Voilà. Et je vous remercie pour votre contribution dans ce débat, toutes et tous. Merci beaucoup.